c'est l'une des mesures du pacte pour l'enfance. Elle a été dévoilée fin novembre par le gouvernement, la création d'un numéro d'appel gratuit à destination des personnes attirées par les enfants est un nouvel outil pour lutter contre les passages à l'acte et la violence sexuelle sur les enfants. C'est une mesure que préconisait la Fédération française des ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Je reçois sa toute nouvelle présidente, elle est toulousaine et avec nous en studio. Bonjour Anne-Hélène Moncagny.
Bonjour.
Merci docteur d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Marchand à Toulouse. Avant de prendre la présidence de la fédération, vous dirigiez le CRIAFS de Midi-Pyrénées, que vous dirigez toujours d'ailleurs. Et peut-être pour préciser à ceux qui nous écoutent, un CRIAF, un C-R-I-A-V-S, c'est une structure publique, un centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles et donc pas un centre de soins. C'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour tous les gens qui nous écoutent, parce qu'en fait, tous les intervenants, toutes les personnes qui interviennent ou qui sont confrontées à une situation de violence sexuelle peuvent solliciter les CRIAFS de leur région. Il y en a un par région sur le territoire français, avec des professionnels de tout genre, mais en particulier du soin et de la psychiatrie, des psychiatres, des psychologues, mais il y a aussi des sociologues, des juristes. Et donc, il faut vraiment que les personnes sachent qu'elles peuvent solliciter le CRIAFS de leur région sur les situations de violence sexuelle qui pourraient leur poser difficulté ou sur même une suspicion de violence sexuelle et une difficulté à savoir quelle est la conduite à tenir. Pour trouver les coordonnées du CRIAFS, il suffit de se rendre sur le site de la Fédération française des CRIAFS, voilà, qu'on trouve très facilement sur Internet.
CRIAFS, donc C-R-I-A-V-S.
Voilà.
Voilà. Alors, ce n'est pas un sujet très Noël, notre sujet du jour. Notre entretien a été reporté plusieurs fois, mais hasard du calendrier, il intervient alors que le monde littéraire, mais pas uniquement, a été ébranlé. Je veux parler de l'affaire Gabriel Matzneff. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il s'agit de cet écrivain français, notamment connu pour ses livres, où il fait état de ses relations avec de très, très jeune fille. Il se trouve que l'une d'elles a sorti un livre, c'était hier, ce qui a réveillé un peu tout ça. Alors du coup, ça va nous servir de cas d'école ce matin avec vous, docteur. La pédophilie dont se vante Gabriel Matzneff dans ses livres, est-ce qu'elle relève de la violence sexuelle que vous ciblez? Autrement dit, de quoi on parle en fait
Bah, voilà, c'est exactement la question qu'il faut se poser. Ouais. Et je crois que voilà, cette histoire qui est aujourd'hui sur le devant de la scène médiatique, c'est... finalement, peut-être une bonne chose qu'on puisse en parler et en reparler, parce que c'est vraiment très important que les gens soient bien au courant et connaissent bien les définitions pour pouvoir agir en amont de toute agression sexuelle. Parce que nous, on va faire, nous psychiatres, une différence entre ce qu'on appelle donc le trouble pédophilique, qui est un trouble mental décrit dans les classifications de psychiatrie, et la pédocriminalité. La pédocriminalité, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels, pour un adulte, d'avoir des rapports sexuels avec un enfant.
D'accord.
Et ça, c'est une infraction. En revanche, le trouble pédophilique se définit par une attirance sexuelle pour des enfants prépubères, chronique, qui s'installe dans la durée. Et on a des personnes qui peuvent présenter une attirance sexuelle pour les enfants, mais qui ne passent pas à l'acte, qui n'ont pas de rapport avec les mineurs. Dans ce cas-là, on n'est pas dans le cadre d'une infraction, mais bien dans le cadre d'un trouble mental qu'il faut prendre en charge.
Oui, donc là, vous mêlez en plus de ça la notion de justice,
bien distinguer les deux. C'est-à-dire qu'on peut être pédophile sans jamais agresser sexuellement un mineur, donc on n'est pas dans le cadre de la justice.
D'accord.
Mais on peut agresser sexuellement un mineur et donc être un pédocriminel sans être attiré sexuellement par les enfants. Et bien sûr, on peut être aussi pédophile et agresser sexuellement des enfants et dans ce cas-là, devenir un pédocriminel.
Et devenir un pédocriminel. Quelle forme la plus courante, sans rentrer dans des détails trop crus, elle prend cette violence sexuelle sur un enfant?
Alors c'est difficile à dire parce que violence sexuelle, c'est un terme extrêmement générique et bien sûr, ça recouvre énormément de situations très différentes les unes des autres, entre des rapports incestueux et un père et ses enfants, ou quelqu'un de l'entourage d'un enfant qui a une autorité sur lui, qui va exercer de la séduction et ensuite avoir des rapports sans contrainte physique. Ça va être à la fois des
situations... Donc là, on est plus dans le cas de Matzneff.
Exactement. Ouais. Exactement. Ça ne sera pas la même violence, la même forme de violence exercée, et ce ne sera pas non plus tout à fait les mêmes conséquences sur les victimes. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, ça aura des conséquences dramatiques pour les victimes. Même si il n'y a pas de... Si vous voulez, parfois, on se représente la violence sexuelle comme quelque chose sous la menace physique, avec une arme.
Oui, on imagine même le zonard au bord de la rivière qui vient s'attaquer à des jeunes filles, ou des choses comme ça, ou des joggeuses, des choses comme ça.
Exactement. Ça, c'est une figure médiatique qui a souvent été... Enfin, c'est une figure, en tout cas, de la criminalité qui a souvent été véhiculée par les médias et mise au devant de la scène. Or, ça ne correspond pas du tout à la grande majorité des violences sexuelles, puisque quasiment 90% des violences sexuelles sur mineurs sont commises par des personnes que l'enfant connaît, et en particulier dans le milieu intrafamilial.
Donc là, ça relèverait plus que... C'est plus proche de l'inceste ?
Alors, dans le milieu intrafamilial, oui,
ouais.
Tout à fait. Et après, dans l'entourage de l'enfant, bah, ça peut être par ce que je vous disais,
proches,
les personnes qui ont autorité, des proches, des amis des parents, des instituteurs. Dans le milieu du sport, on sait aussi qu'il peut y avoir des situations de violence sexuelle exercées par les adultes. Donc, il faut être aussi vigilant à développer les mesures de prévention et les dispositifs de prévention dans tous ces milieux un peu plus à risque. Mais ce qui est sûr, c'est que le milieu le plus à risque, c'est la famille. Alors, c'est un peu terrible de dire ça, et en même temps, il faut pouvoir le dire pour pouvoir accompagner les familles, et en particulier quand on sait qu'il y a déjà eu des situations de violence sexuelle ou de violence au sein des familles.
Gabriel Matzneff, hein, l'écrivain dont nous parlions en préambule, il se vante de relations d'amour avec ces jeunes filles. Est-ce qu'on peut parler d'amour ?
Je ne sais pas si on va pouvoir définir ce que c'est que l'amour ce matin, mais ce qui est certain, c'est que l'amour, comme le définit un adulte, et en particulier peut-être la question de la sexualité surtout, là, comme l'a défini un adulte, la question de l'érotisation, de la génitalité, n'est pas du tout la définition d'un enfant de la sexualité.
Faut le rappeler, ça. Ouais.
Voilà, exactement. Et qu'un enfant ne peut pas consentir librement, même s'il donne des signes de consentement, ou en tout cas qu'il ne s'oppose pas de façon évidente, il ne sait pas, il ne connaît pas ce qu'est la sexualité d'un adulte, donc il ne peut pas consentir librement de ce fait-là.
Et d'ailleurs, ça relève du pénal, hein, les relations.
Bien sûr. Et depuis longtemps.
Et depuis longtemps, avec un enfant. Est-ce qu'on parle de maladie ?
Si vous me demandez de définir l'amour puis les maladies,
ça va être compliqué,
c'est quand
hein.
même des sujets compliqués, mais bon. Alors, on parle de trouble mental.
Quand on parle de trouble pédophilique, est-ce qu'on parle de maladie ?
On parle de trouble mental, donc on peut dire qu'on parle de maladie, je crois, même si on pourrait s'attarder sur la définition épistémologique de la maladie. Mais en tout cas, c'est dans la classification des troubles mentaux où on va retrouver l'ensemble des troubles mentaux, la schizophrénie, la dépression, les troubles de la personnalité et les troubles paraphiliques, parmi lesquels la pédophilie.
Alors, le pacte pour l'enfance compte lutter plus efficacement contre les violences faites aux enfants. Il y a 22 mesures. Dont la ligne d'écoute dont on va parler, les violences sexuelles contre les enfants. Est-ce que c'est moi où on en parle plus qu'avant ? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant réellement ? Est-ce que vous constatez une évolution ?
Bah, je crois que là, l'affaire dont on vient de parler en est le signe. C'est-à-dire qu'on en parlait, comme tout le monde a pu s'en apercevoir aujourd'hui, on en parlait pas du tout de la même manière il y a 40 ans qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les violences sexuelles sur enfants existaient déjà, et depuis longtemps, c'est pour ça que je vous disais, les lois aussi hein, qui interdisent les rapports sexuels entre un adulte et un enfant existent depuis très longtemps, depuis le code pénal de 1810. Mais par contre, il y avait une espèce de tolérance sociétale, ou en tout cas de rapport sociétal à ces faits-là, qui était très différente d'aujourd'hui. Et ça, on le voit bien hein, quand on voit... les extraits d'émissions, mais on parle de Matzneff, mais je crois qu'il faut élargir. Il y a des sociologues qui ont travaillé là-dessus, hein, Pierre Verdrager qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'enfant interdit, qui montre bien aussi qu'à cette période post-68 tard, il y avait des personnalités qui évoquaient la question.
Bien sûr, et qui le revendiquaient.
Qui le revendiquaient, avec des tribunes dans des grands journaux, et ça n'avait pas du tout le même. C'était pas du tout reçu de la même manière sociétalement qu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la grosse différence, c'est que je crois que les droits de l'enfant ont été beaucoup mis en avant, et c'est très bien, il faut continuer, c'est ce que fait Adrien Taquet. Et aujourd'hui, donc,
le secrétaire
on sait
d'État.
Que ça a, oui, exactement, la protection de l'enfance, on sait que ça a des conséquences dramatiques sur les enfants, donc on en parle plus, avec l'espoir évidemment que ça sensibilise plus, et notamment les adultes concernés, qu'ils soient plus sensibilisés aux impacts, aux conséquences que ça va avoir sur les enfants.
À vous entendre, on a l'impression que les personnes qui se sont vantées, alors on a en tête, sans incriminer, un célèbre de l'autre côté de notre frontière, pour ne pas le citer, Daniel Cohn-Bendit, il y en a d'autres hein, qui se sont vantées de relations, ou en tout cas de tendresse particulière pour les enfants, sont à mettre dans le même sac, si je puis m'exprimer ainsi, que le pervers du bord de la rivière.
Alors, comme je vous l'ai dit, hein, le pervers du bord de la rivière, correspond plus à une figure qu'à une réalité, mais Ceci étant, il peut y avoir des situations hein, de violences sexuelles isolées comme celle-là. Après, dans le même sac, moi, c'est une expression que j'aime pas beaucoup en tant que clinicienne, parce que quand on fait de la psychiatrie, quand on fait du soin, on sait que chaque situation est singulière, que chaque personne est singulière, que chaque problématique est singulière. Donc, on essaye d'éviter les sacs.
Alors, la ligne d'écoute, je vais la donner. Hein, c'est le 0806 23 10 63. C'est un numéro unique et national. Il est non surtaxé, accessible à toute personne se sentant attirée sexuellement par un enfant. Il est expérimenté ce numéro d'écoute dans 5 territoires, dont l'Occitanie. Un mot sur le choix des territoires expérimentaux. Pourquoi l'Occitanie en particulier, par exemple ?
Alors, j'ai eu cette question. Non, il n'y a pas plus de personnes pédophiles en Occitanie. En tout cas, pas qu'on sache. Non, si vous voulez, c'est les CRIAF qui se sont portés volontaires sur le territoire français pour participer à cette phase d'expérimentation. Il y a eu 6 CRIAF qui se sont portés volontaires avec lesquels on a travaillé sur...
Les CRIAF qui sont ces centres de ressources. Hein.
Voilà, exactement. On a travaillé sur les critères d'évaluation de ce dispositif, la mise en place technique. Hein, donc, c'est tout ça qu'on est en train de tester.
Il existe déjà en Allemagne, hein, c'est ça hein.
Oui, alors en fait, on s'est inspiré d'un dispositif qui existe en Allemagne, mais pas seulement, hein, qui existe aussi en Angleterre, dans différents pays, et qui, alors en Allemagne, il existe depuis 2005, hein, donc vous voyez, on n'est pas très en avance, et qui a montré, en tout cas en Allemagne, une certaine utilité dans la mesure où il y a eu plus de 10 000 appels, 5 000 évaluations et à peu près la moitié d'orientation vers des thérapies.
Et alors concrètement, c'est ça hein, l'objet, une personne qui se sent attirée par les enfants vous appelle, qui il a au bout du fil ?
Alors, la personne qui appelle, donc, si elle appelle sur ce numéro, au départ, elle tombe sur un répondeur qui explique donc, que c'est la ligne, que c'est une ligne d'évaluation, orientation pour les personnes attirées sexuellement par des enfants et qui demande à la personne de rentrer son numéro de département. Et en fonction du numéro de département, la personne est orientée vers le CRIAFS de référence de la région. Mm-hmm. Donc, c'est la secrétaire du CRIAFS ou le secrétaire qui répond. Alors ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a déjà une mission au niveau des centres ressources d'évaluation orientation.
Ouais.
Donc, c'est des secrétaires qui répondent, qui orientent la personne vers un psychologue ou un psychiatre du centre ressources, qui fait une évaluation et qui ensuite oriente vers son réseau de soins habituel, voilà, avec les partenaires de la région qui sont plus à l'aise avec ce type de difficultés.
Vous avez déjà eu des appels ? Vous savez déjà ? Vous avez des premiers retours ?
Alors, on a déjà eu des appels. Alors, avant le numéro unique, on avait déjà
des
appels.
Bien sûr, mais sur ce numéro
unique.
Avec
le numéro unique, on a eu quelques appels donc, bon, qui ont été évalués, orientés, comme on a l'habitude de faire.
On peut imaginer des réticences tout de même de ces gens qui peuvent se dire peut-être la police va nous écouter, peut-être va-t-il il va y avoir un listing, non ? Vous entendez
bien
ce genre
sûr,
de choses ?
Bien sûr, mais tout à fait. Ça fait partie aussi de l'évaluation qu'on essaye de mettre en place. Mais c'est là que, justement, c'est très important pour nous de venir en parler, y compris dans les médias, parce que ce numéro n'a d'utilité que s'il est connu.
Bien sûr.
Et si on explique les choses. Or, une personne, et les personnes qui nous appellent et qui nous appelaient déjà, ce sont des personnes qui repèrent qu'elles ont une difficulté, un problème à cet endroit-là, qu'elles sont attirées sexuellement par les enfants, que ce n'est pas normal, et qui souhaitent être soignées. Donc une personne...
Elles le vivent comme une entrave à leur vie quotidienne.
Bien sûr, et une crainte aussi hein, de passer à l'acte avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir, en tout cas pour certains.
Vous en avez entendu des confidences de ce type, de cette crainte de passer à l'acte de...
Bah bien sûr, parce qu'il faut bien imaginer que tout ce qu'on reçoit, nous, comme information sur les conséquences dramatiques que ça a sur les enfants, les personnes attirées sexuellement par les enfants, les reçoivent aussi. Et donc, si certaines, dans certains cas, parfois, certaines personnes peuvent être indifférentes à cela, mais la grande majorité ne sont pas du tout indifférentes et en souffrent. Et donc, ne veulent pas faire souffrir un enfant. Donc, nous demandent de l'aide de ce côté-là.
Et vous m'avez dit, hors antenne, avoir entendu en prison la confidence d'une personne détenue qui vous disait, je crois, hein, si j'avais su que qu'il était possible de se soigner, c'est ça hein ?
Alors, pas seulement d'une personne détenue, en fait. J'ai entendu ce témoignage plusieurs fois parmi les patients que je suis qui disent « si seulement j'avais su et pu appeler ce numéro-là, peut-être que ça ne serait pas arrivé avec toutes les conséquences terribles que ça a eues ». Donc ça, pour nous, c'est vraiment fondamental de dire ça. Si déjà on évite un passage, ne serait-ce qu'un passage à l'acte avec ce numéro, on sera heureux. Voilà, donc c'est vraiment l'objet de ce numéro, de ce dispositif de prévention.
Dispositif de prévention, c'est l'une des 22 mesures du plan pour l'enfance annoncé, dont les mesures ont été annoncées par le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet. C'était fin novembre. Je vais vous redonner ce numéro d'écoute. C'est le 0806 23 10 63, un numéro unique national. Il est non surtaxé et donc accessible à toute personne se sentant attirée sexuellement par un enfant. Tout ça, ils ont évidemment pour lutter contre les violences faites aux enfants et le passage à l'acte. Un immense merci à vous, Hélène Moncani, d'être venue nous expliquer un petit peu tout ça et à chaud avec ce cas d'école qu'est l'affaire Gabriel Matzneff. Merci à vous.
Merci beaucoup.